Monsieur le supérieur général, mes seigneurs, mes chers confrères, mes chers amis, le problème posé à la conscience catholique après Vatican II est double. Il y a le problème moral de la résistance à l'autorité légitime. Et c'est effectivement le problème qui se pose à la conscience. Quand on parle de conscience, le problème c'est d'abord celui-là, légitimité de la résistance à l'autorité. Et puis le problème théologique de la possibilité d'une défaillance de l'autorité dans l'Église, de l'autorité instituée par Dieu, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le premier problème, on le trouve traité. On n'est quand même pas complètement dans le noir. Résistance à l'autorité légitime, c'est une question de métaphysique de l'autorité, c'est une question de philosophie, c'est une question de morale. C'est le cas classique de légitime défense, de cas de nécessité. On peut trouver des règles sûres à propos de la résistance à l'autorité civile. Il n'y a pas de difficulté, le clergé admettrait volontiers que l'autorité civile légitime puisse être tyrannique ou despotique, hein, au sens propre du terme. Une autorité tyrannique est une autorité qui exerce son pouvoir et sa force pour imposer de faire le mal, et une autorité despotique, c'est une autorité qui exerce son pouvoir et sa force pour incliner à agir, qui impose arbitrairement des contraintes sans qu'il y ait aucun profit pour le bien commun. C'est simplement l'arbitraire, le despotisme. Bon, eh bien, on trouve donc facilement des règles sûres à propos de la résistance à l'autorité civile, mais on ne trouve pas commodément, pas couramment, en théologie, l'étude de la possibilité d'une pareille trahison de l'autorité légitime dans l'Église. Or, c'est un problème qui se pose au moins depuis Léon XIII, partiellement. La réponse est très en général, obéissez toujours, il y a une infaillible sécurité à obéir, même si l'autorité ecclésiastique se trompe. En général, il ne peut pas se tromper, il est faillible, mais il ne se trompe pas. Exemple, dans le dictionnaire de théologie catholique, à l'article magistère, il est dit, le magistère ordinaire pontifical n'est jamais erroné. Bon, c'est pas vrai, c'est évidemment pas vrai. Alors affirmer, historiquement, il y a des cas où le magistère pontifical s'est trouvé erroné, c'est des cas que tout le monde connaît, c'est pas vrai. Alors, avec cette position, eh bien, on se trouve dans l'impossibilité de réagir. Infaillible sécurité, vous conformez à la volonté de Dieu en coopérant au mal, du moment qu'il vient par voie d'autorité. C'est ce qu'a écrit Don Roy à Mgr Lefebvre en 1975, au moment de la suspense à Divinis. Je vais traiter donc devant vous une partie de ce problème, le collapsus apparent du magistère ordinaire universel, c'est-à-dire de l'Église enseignante. Ce n'est qu'une annexe d'un problème théologique général qui, je pense, n'est pas résolu, la nature de l'Église. Vous avez remarqué que les erreurs du Concile Vatican II se greffent sur une conception de l'Église qui est fausse. Mais ils ne rencontrent pas de définition qui permette de servir de barrage, ce qui fait que les intelligences se trouvent en état de moindre résistance. Le problème de l'Église, c'est que c'est une réalité quasi théandrique, pas au sens propre comme notre Seigneur Jésus-Christ, mais par analogie. Quand on parle de l'Église, il y a l'organisme surnaturel des âmes, c'est un organisme surnaturel. Les âmes participent de façon diverse, comme dans un organisme, à la vie surnaturelle, et sont unies à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. Et on parle aussi, de façon indissociable, d'une société visible sur la terre. Et vous voyez, c'est indissociable, parce que l'être humain était un être social, étant mu par Dieu, même pour sa sanctification. Il est mu par Dieu selon sa nature. S'il existe une communauté d'êtres dans une grève de la vie surnaturelle, une communauté d'êtres en vue de la sanctification, elle doit forcément se manifester dans la vie quotidienne par une société visible sur la terre. Et on voit chez les pères de l'Église que c'est indissociable, quand ils parlent de l'Église, ils parlent en même temps de l'organisme surnaturel et de la société visible. C'est inséparable, on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Mais ce qui est dit de l'un ne s'applique pas de façon univoque à ce qui se dit de l'autre. On ne peut pas appliquer de façon univoque ce qu'on dit de l'organisme surnaturel, la participation à la vie surnaturelle, à la société visible, terrestre, qu'est l'Église. Alors les deux sont inséparables, mais comment les deux s'articulent-ils? Pour notre Seigneur Jésus-Christ, la question, vous savez, la question a été traitée, évidemment, principalement au Concile de Chalcédoine, il y a eu de nombreuses hérésies, puis finalement, l'union, comment l'unité théandrique quand notre Seigneur Jésus-Christ est-elle intelligible? Bon, c'est l'union hypostatique. Pour l'Église, il n'y a pas d'union hypostatique, et en fait, il ne semble pas que la question soit claire, en tout cas, il n'y a pas de définition dogmatique. Et alors, il y a une application pratique, vous voyez, on peut être en apparence membre de l'Église et être en état de péché mortel, ne plus faire partie de l'organisme surnaturel. On est un membre mort, c'est pas membre du tout, membre mort, mais enfin, il ne fait pas partie de l'organisme, de la vie de l'organisme surnaturel. Et il peut y avoir réciproquement excommunication, exclusion de l'organisme visible, de la société visible qu'est l'Église, sans pour autant que de façon nécessaire, par exception disons, sans pour autant qu'il y ait de péché mortel interne chez le sujet et sans qu'il cesse de faire partie de l'Église. Et c'est la difficulté du droit canon en particulier, qui doit tenir compte de la réalité surnaturelle. Et les modernistes se sont servis de cette indétermination sur la doctrine de l'Église pour avancer une ecclésiologie hérétique sans pour autant qu'il tombe sous le coup d'un anathème. Ça n'est pas l'objet exact de mon exposé. Je voudrais seulement que vous rendiez compte que cet exposé se place dans un contexte qui est beaucoup plus large. Le point exact de mon exposé est le suivant. Est-il possible que le magistère institué, l'autorité instituée pour nous transmettre la foi par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Église, comment c'est-il qu'on puisse légitimement lui résister au nom de la foi? Notre Seigneur Jésus-Christ, s'adressant à ses apôtres et à tous les évêques, leur dit en gros, qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me méprise. Et si vous appliquez ça géométriquement, ben vous allez vous dire, par conséquent, il est impossible que les successeurs des apôtres, formellement successeurs des apôtres, reconnaissables comme tels, puisque l'Église est une société visible et ils se reconnaissent comme tels, les évêques catholiques, eh bien, il est impossible qu'on puisse leur résister au nom de la foi. Ou alors ce sera affirmé que le dépôt de la foi est dans le magistère ordinaire universel, c'est-à-dire ce que les évêques catholiques sont en train d'enseigner, et ça est en contradiction avec le dépôt de la foi, qui est dans la tradition, c'est-à-dire ce qui a toujours été enseigné dans l'Église. Et comme ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Alors, le paradoxe apparent, je vais m'efforcer de résoudre le paradoxe apparent. Comment est-il possible que l'ensemble des successeurs des apôtres, l'ensemble des évêques catholiques, reconnus publiquement comme catholiques, en communion de foi avec le pape, puissent transmettre, obligés à croire un enseignement erroné? Dès le départ, je voudrais vous faire saisir que on n'est pas en contradiction avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de notre Seigneur doit s'appliquer, mon Dieu, comme elle est pratiquée dans l'Église. Il y a une citation de Vacant à ce sujet-là, dans l'Église, le magistère ordinaire universel et ses organes. À propos de ce paradoxe, il dit « Ne faudrait-il pas admettre équivalemment que les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ aux prêtres, vous savez, c'est Jean 20-23, à propos de la confession, les péchés sont remis à qui vous les remettrez, sont retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Donc ne faudrait-il pas admettre équivalemment, si on prend à la lettre, géométriquement, cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette promesse garantit la validité de toutes les absolutions qu'il plaira à un prêtre de donner? Eh bien, si un prêtre par caprice donne une absolution dans des circonstances où le sujet n'est pas digne, elle est évidemment invalide. Vous voyez que les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, quand elles s'adressent à l'organisme social qu'est l'Église, eh bien, elles sont à comprendre à la manière dont fonctionne un organisme social. Alors, l'absurdité apparente, la faillibilité et l'infaillibilité du magistère ordinaire universel, cette absurdité apparente peut être résolue, et je m'efforçais de la résoudre devant vous. D'abord, qu'est donc le magistère ordinaire universel? Je vous rappelle, bref rappel de choses qui ne sont pas controversées, que tout le monde connaît. Le magistère ordinaire universel est une appellation récente qui date du Concile Vatican I. Il s'agit de l'ensemble des évêques catholiques. C'est une des vérités fondamentales de la foi, crue explicitement depuis le début de l'Église. C'est sur la base de cette vérité fondamentale que les autres hérésies ont été condamnées. C'est-à-dire, et c'est très clair, si mes sources sont Francelin, le traité des traditionnés, dans lequel il donne une multitude de citations des pères, où est le dépôt révélé, où est l'enseignement du Christ, où est l'enseignement des apôtres? Eh bien, les pères répondent, l'enseignement des apôtres se trouve dans l'enseignement des évêques, chacun pour son parché, pour ses fidèles, qui transmettent l'enseignement des apôtres. La tradition des apôtres est donnée par l'ensemble des évêques. L'ensemble des évêques catholiques transmet globalement le dépôt de la foi. Je vous donne une citation, par exemple, du pape Saint-Simplice. Il est hors de doute qu'on ne peut dissoudre ce que les évêques, bien qu'établis chacun dans son église et néanmoins avec une même conviction, ont affirmé en termes différents mais avec une même pensée. Ou bien Saint-Irénée, on trouve l'objet de la foi dans la tradition qui vient des apôtres et qui se garde dans les églises par la succession des évêques. Vous remarquerez la manière spontanée dont Saint-Irénée s'exprime. Vous avez ce qui est la nourriture de l'organisation naturelle, qui est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez la même réalité dans le corps visible de l'Église, qui est la succession légitime des évêques. Alors, ce n'est pas la succession légitime des évêques qui crée la vérité apostolique, mais il y a une réalité visible dans le corps de l'Église qui correspond à cette transmission du dépôt révélé. Alors, donc il y a trois notes chez les pères de l'Église quand on analyse ce qu'ils disent du magistère ordinaire universel. Il y a trois notes importantes. Premièrement, il s'agit des évêques dispersés, chacun pour son troupeau. Deuxièmement, il donne un enseignement qui n'est pas définitif dans sa formulation, qui peut toujours être perfectionnable. Et il est ordonné par nature à transmettre le dépôt révélé. C'est une constante. Ils transmettent l'héritage apostolique, disons. Au Concile Vatican I, le magistère ordinaire universel a été mentionné, ça n'est pas une définition, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, parce que c'est un obiter dictum. Il est mentionné en passant, parce que l'objet propre de la définition du Concile Vatican I, ça concernait la foi. C'est dans la constitution Dei Filius. Et quand il veut définir où se trouvent les vérités révélées, eh bien, il désigne au passage le magistère ordinaire universel. Alors, je vous lis le passage. « On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise et qui est proposé à croire en tant que divinement révélé par l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire universel. » Vous voyez donc qu'il est mentionné qu'on doit croire le dépôt de la foi, ce qui doit être cru de foi divine et catholique, est transmis par le magistère ordinaire universel. Et toutes les discussions qui ont eu lieu autour de ce petit texte à Vatican I montrent très explicitement qu'il s'agit de l'ensemble des évêques catholiques dispersés, enseignant chacun dans son diocèse en soi. Et donc il est appelé ordinaire parce que c'est le magistère ordinaire de l'évêque. J'ai oublié au départ ce que j'aurais dû faire, de vous dire clairement qu'est-ce que c'est que le magistère. Le magistère ordinaire universel, c'est la fonction enseignante de l'Église. Il est appelé universel parce que c'est l'universalité des pasteurs. Il est appelé ordinaire parce que c'est la fonction ordinaire des pasteurs. Et c'est magistère parce que ce n'est pas un enseignement d'universitaire s'adressant simplement à l'intelligence. C'est un enseignement donné avec autorité, avec participation à l'autorité divine. Et c'est le propre de l'évêque, c'est le propre de l'épiscopat. Alors, la question qui se pose, c'est comment, chaque évêque dans son diocèse, mais il est faillible. Son enseignement lui-même, il n'est pas infaillible. Ce n'est pas parce que c'est un enseignement authentique d'évêque qu'il est infaillible. Alors, la question va se poser, comment se fait-il que l'ensemble des évêques puisse être déclaré par le Concile Vatican I, puis en fait c'est toute la tradition de l'Église, comme ne pouvant pas défaillir dans la transmission du dépôt révélé, alors que chacun des organes de ce magistère est lui-même faillible. Voilà, comment résoudre ce problème? Alors, d'abord des réponses fausses qu'on trouve parfois et qui sont très ennuyeuses parce qu'elles amènent à des erreurs. Enfin, ce sont des erreurs, elles ont toujours des conséquences. Vous voyez que l'infaillibilité, d'où vient l'infaillibilité? Le Concile Vatican I ne dit pas le mot infaillible. Il dit qu'on doit croire de foi divine et catholique. Mais l'infaillibilité est corrélatif. Bio dit qu'il n'est pas possible de demander à des fidèles de croire de foi divine et catholique si le magistère qui enseigne n'enseigne pas sans qu'il y ait d'erreur possible. Donc c'est corrélatif nécessaire de l'obligation de croire de foi divine et catholique. Alors, comment se fait-il, puisque la multiplication des sujets ne peut pas changer la nature de l'être, comment se fait-il que l'ensemble des évêques puisse être infaillible, alors que chaque évêque séparément ne l'est pas? Donc, les solutions erronées, d'abord dire que c'est le magistère ordinaire du universel du pontife romain. Le pontife romain ayant la juridiction universelle, son magistère peut s'adresser, pas de façon nécessaire, mais il peut s'adresser à l'ensemble de l'Église. Et on attribuerait au magistère ordinaire universel du pontife romain cette infaillibilité. C'est pratiquement la conception solemne avec des petites nuances, bien entendu. Et par conséquent, les évêques étant comme on imagine le pape comme le soleil, les évêques comme la lune qui reflète le soleil, et alors ils reflètent le magistère pontifical qui est la source de la communion. Eh bien, cette proposition manifestement ne va pas avec les pères de l'Église qui disent que chacun des pères est vrai docteur et que chacun n'enseigne pas la doctrine de l'Église romaine, ils enseignent la doctrine des apôtres qu'ils ont reçue parce qu'ils sont successeurs des apôtres. Et puis il y a un autre argument qui est définitif à ce sujet-là, c'est que le magistère ordinaire universel continue à transmettre le dépôt de la foi, même s'il est vacanté, quand le siège apostolique se trouve être vacant. Ça peut durer un mois, ça peut durer 2 mois, je ne sais pas si dans l'histoire de l'Église ça a duré des périodes beaucoup plus longues, mais dans ce cas-là, l'Église, il n'y a pas d'hiatus dans la transmission du dépôt révélé, l'Église est toujours en train de transmettre le dépôt révélé, le magistère ordinaire universel ne perd pas son autorité à cause de cela. Un autre exemple, un autre fait pratique qui permet de conclure, c'est entre autres le cas des évêques de... Où est-ce que c'était déjà ? Des évêques arméniens qui, après l'invasion musulmane, se sont trouvés séparés pendant plusieurs siècles du siège de Rome et qui ne cessaient pourtant pas de transmettre le dépôt révélé à leurs fidèles. Donc, il ne faut pas chercher la cause dans une infaillibilité du magistère ordinaire pontifical, qui d'ailleurs n'existe pas. Deuxièmement, et il ne faut pas chercher non plus la cause dans une assistance collective. C'est une thèse que j'ai trouvée dans des théologiens récents, juste antérieurs à Vatican II ou juste postérieurs à Vatican II. Ils résolvent le mystère de l'Église dont je vous ai parlé précédemment d'une façon idéomorphique. Ils disent que le Saint-Esprit est l'âme de l'Église, mais proprement, comme au sens de la forme. Comme si l'Église était simplement, vous voyez, l'ensemble humain constituait la matière, mais pas quasi-matière, réellement la matière, et le Saint-Esprit vraiment la forme. Ça permet d'admettre la révélation permanente, ça. Parce que dans ce cas-là, ce qui fermente dans cet être qui est informé par l'Esprit, eh ben, c'est de la parole divine. Ça permet d'admettre l'évolution du dogme. On trouve ça, j'ai trouvé encore récemment cette thèse dans une réflexion du cardinal Coffi, réflexion sur l'Église dans la documentation catholique numéro 2122. C'est des choses que j'avais trouvées dans les théologiens juste au moment de Vatican II. On voit que c'est une idée qui est assez courante actuellement dans l'épiscopat. Alors évidemment, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que la vie surnaturelle ne peut se greffer que sur une nature individuelle, intellectuelle, et ne peut pas se greffer sur un être collectif. Ça n'a peu de sens, ça ne veut rien dire, de parler de la greffe de la vie surnaturelle sur quelque chose qui n'est pas une nature individuelle douée d'intelligence. En fait, cette thèse n'est pas possible. Et puis elle arrive à une autre conséquence, on peut dire qu'elle est fausse, là je fais un petit excursus, mais la preuve qu'elle est fausse, c'est que comme elle aboutit à la révélation permanente, continuation de la révélation, c'est affirmé que dans ce cas-là, Jésus-Christ n'a pas révélé la totalité du révélé. Or, quand Dieu se révèle par son Verbe, il n'a plus rien d'autre à nous dire. C'est la plénitude de la divinité qui est révélée aux hommes par son Verbe, quand le Verbe se fait homme. Ou alors, c'est dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous voyez qu'on doit rejeter cette thèse indubitablement parce qu'elle n'est pas cohérente avec le reste de la foi. Alors, j'ai une solution à vous proposer. J'ai trouvé une citation de saint Augustin et Tertullien qui donne une justification. Ils expliquent pourquoi, à leur avis, pourquoi il leur paraît tout naturel que le dépôt révélé se trouve dans l'enseignement de l'ensemble des évêques. Citation de Tertullien. « Est-il vraisemblable d'admettre que des églises particulières si nombreuses et si illustres aient erré sur un même point, toutes de la même manière ? L'erreur de la doctrine de ces églises aurait dû varier. » Ce qui dans la doctrine est trouvé un chez beaucoup ne peut pas être une erreur, c'est la tradition. Alors remarquez bien le raisonnement de Tertullien. Il dit simplement, quand on constate un consensus chez des gens qui ne sont pas mis d'accord, qui sont séparés et qui disent voilà l'enseignement des apôtres, et qu'on constate que c'est la même chose, mais il dit voilà, c'est la preuve que c'est la tradition. Cet argument, il doit vous rappeler quelque chose. Ça ressemble beaucoup à l'argument de l'infaillibilité du genre humain. En philosophie, le problème de fond est très semblable. Chaque homme est sujet à l'erreur, et pourtant, dans les cas où il peut être connu, c'est quand même très rare, le consentement universel du genre humain ne peut pas être erroné. Vous avez tous appris ça en philosophie. Là, on connaît la démonstration, une opinion universellement admise en tous les temps, en tous lieux, a nécessairement une cause unique. Or, l'unique cause, quand tout varie, lieu, éducation, science, ce qui est commun aux hommes, c'est la raison. Comme la raison, par essence, est ordonnée au vrai et n'adhère à l'erreur que par accident, il faut dire que l'opinion universellement crue comme vraie est vraie en fait, puisque c'est la raison, par essence, adhère au vrai. Eh bien, faites l'analogie, le raisonnement tertullien, c'est celui-là. En matière de foi, chaque évêque est à une assistance propre à l'épiscopat pour enseigner le vrai. Quoique par accident, cette assistance surnaturelle puisse ne pas atteindre sa fin en raison des passions, car en effet, des passions peuvent influencer un évêque et un être comme les autres, il reste quand même que son assistance, qui est commune à tous les évêques, est ordonnée à la vérité religieuse, étant ordonnée à la transmission du dépôt révélé. Et ils ont une lucidité, une clairvoyance, une facilité d'expression, une autorité même plus grande du fait de cette grâce. Quand on constate qu'il y a unanimité dans l'enseignement de ces pasteurs séparés chacun pour leur troupeau, puisque par nature, la grâce les incline tous dans le même sens, quand on rencontre un consensus spontané sur un point concernant la foi et les mœurs, il peut avoir pour cause que ce qui est commun, c'est-à-dire la raison éclairée par la grâce du sacrement, qui de soi tend à la vérité surnaturelle. Est-ce que ce cas est exceptionnel de consensus ou ce qu'il est ordinaire? Eh bien, les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ sont claires, c'est le cas ordinaire. Quand il dit « qui vous écoute, m'écoute, qui me méprise », eh bien, il veut simplement dire que, de façon ordinaire, d'une manière suffisante pour la vie de l'Église, ordinairement, le dépôt révélé est reconnaissable dans l'enseignement ordinaire des pasteurs. Mais vous voyez qu'il y a, vous voyez là le poids, la fragilité, la vulnérabilité du magistère ordinaire universel. Je vais vous en parler tout de suite après. On comprend pourquoi il est si important que le magistère ordinaire universel soit dispersé. C'est précisément parce qu'il est dispersé que son enseignement moralement unanime est un témoin sûr de la prédication apostolique. Vous avez entendu hier, M. l'abbé Simoulin, vous montrer les lettres des évêques dispersés, et c'était catholique. On les trouve les mêmes réunis à Vatican II, se superposent. Ils sont toujours pasteurs de leur diocèse, et on ne peut pas dire qu'il n'existe pas le magistère ordinaire universel dès lors qu'ils sont réunis. Mais il se superpose une multitude de pressions et entre autres les phénomènes de dynamique des groupes qui vont perturber beaucoup le libre exercice de leur intelligence. Beaucoup d'autres influences vont se surajouter à l'action de la grâce. Donc on comprend l'importance du caractère dispersé. C'est impropre du magistère ordinaire universel. Et on comprend aussi pourquoi il transmet mais pourquoi il ne peut pas définir. Précisément parce qu'aucun évêque séparément n'a l'autorité sur les autres et ne peut pas trancher définitivement un point de foi. Il ne peut que transmettre, il ne peut pas définir. Alors, quelques annexes qui ont un certain intérêt. L'accord moralement unanime de l'épiscopat sur un point de foi dans un contexte paisible est impropre du magistère ordinaire universel. C'est-à-dire que c'est impropre de cette fonction enseignante de l'Église sur le peuple chrétien, mais ça n'est pas le constitutif formel. C'est impropre. qui peut manquer évidemment par accident. Ce petit détail a une certaine importance parce qu'il revient à dire que si c'était le constitutif formel, l'accord moralement unanime, eh bien, on ne pourrait jamais désobéir. Deuxièmement, le magistère ordinaire universel est la cause du progrès dogmatique. Vous saisissez pourquoi ? Ces formulations de chaque évêque, ces formulations qui sont diverses, les difficultés pastorales, la nécessité de mettre en garde les fidèles, va faire que chaque évêque va formuler d'une manière qui lui paraît opportune en raison des circonstances, le dépôt révélé. Et c'est ainsi que lorsque cet enseignement multiforme va servir de base à la définition définitive irréformable. C'est particulièrement clair pour les premiers conciles, Nicée et Constantinople, ils sont particulièrement faciles à observer. On constate que c'est sur la base de l'enseignement multiforme des pasteurs que finalement le magistère extraordinaire universel va pouvoir formuler sa définition. Il n'a créé pas ex nihilo, mais sur la base de l'enseignement du magistère ordinaire universel, la cause du progrès dogmatique. Enfin, cette infaillibilité, quand il est saisissable, elle n'est qu'analogique, parce que tout n'est pas explicite, tout le dépôt révélé n'est pas explicite et la formulation peut être imparfaite. Le magistère ordinaire universel transmet bien infailliblement l'intégrité du dépôt révélé, mais il n'en résulte pas qu'il enseigne explicitement et que la formulation de ce qui est explicite est absolument parfaite. D'autre part, la manière dont l'enseignement du magistère ordinaire universel nous parvient, parce qu'au niveau du sujet, ils enseignent l'ensemble des évêques, en gros, il le connaît par l'enseignement de son propre évêque, de façon assez indirecte, par une espèce d'influence ou d'osmose, instantanément. Le magistère ordinaire universel instantané est peu connaissable, il est connaissable dans des cas exceptionnels. Quand le pape consulte l'ensemble des évêques, il peut le faire, c'est le cas en particulier pour la définition de l'Assomption et la définition de l'Immaculée Conception. Alors on a un cas où on a une évidence, un de ces cas exceptionnels, où on a une évidence du magistère ordinaire universel instantané, c'est-à-dire chaque évêque vient dire « voilà ce qu'on croit dans mon Église ». Quand il est dit, on a ces cas exceptionnels, mais c'est des cas exceptionnels. On a aussi une connaissance du magistère ordinaire universel par l'infaillibilité in credendo, c'est-à-dire que la piété du peuple chrétien est lente à modeler, et pratiquement ce qui est cru, alors c'est encore plus indéterminé dans la formulation, mais pratiquement ce qui est cru traditionnellement par le peuple chrétien est un très bon témoin de la constance du magistère ordinaire universel. Mais vous voyez que cette saisie du magistère ordinaire universel est difficile et on n'a pas affaire à une formulation définitive, disons en acier inoxydable, avec des limites bien déterminées. Et alors, l'obligation de croire au magistère ordinaire universel, on doit croire de foi divine et catholique, bien sûr, et pourtant, Vacan dit dans le magistère ordinaire et ses organes que la note la plus grande qu'on puisse donner à un enseignement ponctuel du magistère ordinaire universel quand on arrive à le saisir, c'est proxima fidei. Ça paraît contradiction. Ça ne peut pas être proxima fidei puisqu'on doit croire de foi divine et catholique. Mais sur un point particulier, l'obligation d'adhérer à un enseignement multiforme présenté ordinairement par un organe faillible qui est l'évêque du lieu ne peut pas être la même que celle d'adhérer à un enseignement express et irréformable promulgué par un organe infaillible qui est le magistère ordinaire universel. C'est la forme, la manière dont parvient à chaque sujet de façon ordinaire, sur un point particulier, l'enseignement ordinaire universel, qui fait que la note théologique est nécessairement moins élevée. La connaissance qu'on peut en avoir est variable, parce que l'évêque enseigne par ses lettres pastorales, par liturgie, par les catéchismes, par les sermons, par ceux qu'il promeut, par le prédicateur qu'il choisit, etc. Et d'autre part, il peut se trouver obscur pendant un certain temps. L'histoire montre que dans les cas de grandes hérésies, particulièrement l'hérésie arienne ou le grand schisme d'Occident, sur des questions vitales, le magistère ordinaire universel peut se trouver pendant un temps notable complètement obscur. C'est particulièrement clair pour le grand schisme d'Occident, Paradoxalement, le branchisme d'Occident ne pose pas réellement un problème sur l'autorité pontificale. Sur les trois papes, il y en avait un. Indubitablement, il y avait un évêque de Rome avec la juridiction universelle. Le problème, ce n'est pas celui-là, c'est celui du magistère ordinaire universel. On constate que l'ensemble de l'épiscopat dans l'Église, à un moment donné, est incapable de reconnaître quelle est la source de la communion. Quel est celui qui a la juridiction universelle? C'est-à-dire qu'il est obscur sur un des points essentiels. Parmi les choses que de nous faire connaître le magistère ordinaire universel, c'est celui qui est... Il y a entre autres celui qui a la juridiction universelle. Or, le grand schisme d'Occident, cette obscurité pendant laquelle il y avait réellement un vrai pape, mais on ne peut pas dire qu'il y avait un accord clair et explicite, moins qu'on puisse en dire, eh bien, ça a duré 50 ans. Donc vous voyez, la connaissance qu'on peut avoir est variable, et il y a même des cas où il peut être, pendant une certaine durée, complètement obscur. En dehors des crises, quatre crises, un témoin sûr de l'enseignement ordinaire, l'enseignement du magistère ordinaire universel et l'enseignement constant de l'Église romaine. Ensuite, il y a, je vous l'ai déjà dit, la croyance universelle de l'Église. Il y a donc une différence, une différence essentielle entre le magistère ordinaire universel et le magistère extraordinaire. Et j'insiste là-dessus parce que à gommer la différence, on va à la collégialité. Parce qu'on dit, on ne fait plus la distinction entre des fonctions qui sont absolument distinctes dans l'Église. Alors, comment est-ce que le magistère ordinaire universel peut être obscur? Eh bien, simplement parce que dans certaines périodes, il devient très difficile de déterminer qui est sujet authentique du magistère ordinaire universel. En temps normal, qui est sujet? Qui est-ce qui enseigne? Qui est le docteur de la foi? C'est simple, c'est l'évêque catholique. Qu'est-ce que veut dire un évêque catholique? Évidemment, il ne suffit pas d'être évêque. Les évêques schismatiques, dans le schisme oriental, ne sont pas sujets du magistère ordinaire universel. Alors, à quoi reconnaît-on un évêque catholique? Il est intéressant de voir la pratique de l'Église primitive. En gros, ultimement, c'est la communion de l'Église romaine. La reconnaissance publique de l'orthodoxie d'un évêque. La communion de l'Église romaine, ça n'est pas la juridiction, c'est une chose absolument différente, c'est une reconnaissance publique d'orthodoxie. Quand un évêque peut rompre sa communion avec un autre évêque, mais il n'a pas autorité sur lui, et en soi, ça ne tranche pas définitivement la question. C'est particulièrement clair dans le cas de Lucifer de Cagliari, vous savez, à la fin de l'hérésie arienne, qui était un homme très pétulant et qui disait « Je suis un évêque catholique, vous êtes des hérétiques, je vous dépose et j'installe un évêque catholique. » il était peut-être bien convaincu, il se trouve que c'était vrai qu'il était un évêque catholique, mais on voit très bien qu'un évêque, en fait, ne peut pas exercer cette autorité sur un autre, même si l'autre est réellement hérétique. On a ce problème difficile entre, vous voyez, l'âme de l'Église, c'est-à-dire l'organisme surnaturel, et puis la société visible. Qui est-ce qui a l'autorité pour le faire? C'est le pape, et le pape Saint Damase a repris Lucifer de Cagliari en disant, mais c'est peut-être vrai qu'il est hérétique, mais tant que le souverain pontife ne lui a pas retiré sa communion, vous ne pouvez pas intervenir, vous n'avez pas le droit d'empiéter. Finalement, donc, un évêque catholique se reconnaît à ceci, c'est qu'il est dans la communion du Saint-Siège. Cette communion du Saint-Siège, elle n'est pas un acte infaillible. Elle peut fort bien ne pas correspondre à une réalité. Et c'est pour ça que le magistère ordinaire universel, c'est une des causes qui explique que le magistère ordinaire universel peut être obscur. On peut très bien avoir des évêques qui sont publiquement en communion avec le Saint-Siège et qui sont des hérétiques. Est-ce que c'est déjà arrivé? Bien sûr, un très beau cas. Saint Sophrone... le pape Honorius et puis le patriarche de Constantinople, comment il s'appelait déjà? J'ai ça quelque part, attendez, je vais retrouver ça. C'est Sergius, c'est ça le pape. Alors, on a le cas où publiquement, Honorius a donné sa communion à Sergius, il a été trompé, mais enfin, il a donné sa communion publique à Sergius. Avec ordre de stère, alors Sergius était hérétique. Saint Sophrone de Jérusalem, qui avait dénoncé Sergius, refuse d'obtempérer et continue à rompre, à se maintenir, à dire que Sergius est hérétique et à rompre sa communion avec Sergius. Et le pape excommunie Saint Sophron de Jérusalem parce qu'il ne lui obéit pas et qu'il refuse d'être en communion avec quelqu'un qui est en communion avec lui. Or, lequel était orthodoxe ? C'était Saint Sophron. Lequel était hérétique ? C'était Sergius. Alors on a un cas où le pape exclut de la communion catholique un évêque catholique et maintient explicitement, formellement, c'est pas simplement par son silence sa faiblesse, il maintient explicitement, formellement par ses lettres, il reconnaît la communion de celui qui est hérétique. Bien entendu, la communion catholique garantit quelque chose, c'est pas rien du tout. Ça fait partie de l'autorité du pape. Confirme tes frères, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est pas créer, leur dire, leur dicter ce qu'ils doivent croire, mais c'est simplement confirmer celui qui est réellement des successeurs des apôtres et celui qui ne l'est pas. Cette ordre de notre Seigneur Jésus-Christ à Saint-Pierre, eh bien, elle signifie, comme dans le cas précédent, à propos de qui vous écoute m'écoute, une sécurité moyenne. Ordinairement, c'est une norme sûre qui est suffisante pour la vie de l'Église. Comme dans toutes les sociétés, c'est une norme sûre, ordinairement suffisante pour la vie de l'Église. Et par exception, elle ne peut ne correspondre à rien. Alors il y a d'autres cas comme celui-là, c'est pas la peine que je vous donne, ce serait trop long de vous les énumérer. Et alors nous avons donc la cause d'une défaillance apparente exceptionnelle, mais qui peut arriver, c'est quand même exceptionnel, les défaillances du magistère ordinaire universel. On a le cas de l'hérésie arienne, on a le cas du grand schisme, et puis nous avons le cas actuel. Mais quand même sur 2000 ans d'église, c'est quand même des périodes très courtes et très rares. Quand on est noyé au milieu, c'est désagréable, mais pour l'histoire de l'Église, on voit que c'est quand même des cas exceptionnels. Donc nous tenons là une des causes de la défaillance apparente du magistère ordinaire universel. Il peut très bien arriver que dans l'ensemble des évêques, un certain nombre d'évêques, ils ne sont plus des évêques catholiques. Ça ne se voit pas parce qu'ils ont toujours leur papier timbré. Ils sont toujours en apparence en communion avec le Saint-Siège. Et à ce moment-là, les évêques catholiques existent toujours, mais leur parole peut très bien être couverte par les clameurs des autres. Surtout si en plus, que c'était le cas dans le cas de l'hérésie arienne, les évêques hérétiques avaient de leur côté le pouvoir. Et le pouvoir civil exerçait une pression qui venait s'ajouter à la parole des évêques hérétiques, ce qui fait que dans les clameurs générales, on n'entendait presque plus les paroles des évêques catholiques, d'autant plus qu'ils étaient en exil et qu'ils n'avaient pas le micro. Ce qui fait qu'ils existent toujours, le magistère ordinaire universel existe toujours, est toujours en train de transmettre le dépôt de la foi. L'Église n'a pas cessé d'exister, mais il est très difficilement connaissable, voire complètement obscur, en raison des controverses. Première cause de crise du magistère ordinaire universel, donc crise de la communion. Vous voyez tout de suite l'application actuelle. Par exemple, Walter Kasper est en ce moment publiquement un évêque en communion avec le Saint-Siège, et vous savez qu'il nie la résurrection. Bon, et explicitement, publiquement, notoirement, dans des livres qui ont été publiés, c'est pas en secret, dans un coin. Bon, on a un cas, nous sommes dans un cas où il y a défaillance de la communion romaine. Une autre cause de défaillance du magistère ordinaire universel, ce serait une défaillance du magistère ordinaire pontifical. Bon, ça va, je suis dans les temps. L'Église romaine est comme la cité si placée sur la montagne. Du fait de sa juridiction universelle, lorsqu'il y a des controverses, c'est elle qui tranche définitivement les controverses. Et ça a toujours été reconnu dans l'Église. Et l'enseignement ordinaire de l'Église romaine a un poids beaucoup plus grand que l'Église romaine fait partie du l'enseignement de l'Église romaine fait partie du magistère ordinaire universel. Mais elle a un poids beaucoup plus grand que l'enseignement d'un évêque particulier. Et on peut comprendre pourquoi. Le magistère est un enseignement donné avec autorité. Plus l'autorité surnaturelle est grande, plus cet enseignement aura de poids. Or, l'Église romaine a la juridiction universelle. Vous voyez que l'autorité de l'Église romaine est plus grande que celle de n'importe quel évêque. Deuxièmement, plus l'influence d'un enseignement est grand, de sa nature, si vous voulez, on peut inférer l'assistance plus grande du fait de l'enseignement, de l'influence de cet enseignement. Or, il est très clair que l'enseignement de l'Église romaine, l'enseignement ordinaire de l'Église romaine, a toujours beaucoup plus d'influence de sa nature, simplement. Même si le pape n'insiste pas spécialement, indépendamment de sa volonté, de sa nature, une influence beaucoup plus grande que l'influence d'un évêque dans son coin. Ce qui fait que Ordinairement, l'enseignement de l'Église romaine a un poids considérable dans le magistère ordinaire universel. Supposez qu'à un moment donné, l'Église romaine enseigne une erreur ou favorise une erreur. Le magistère ordinaire pontifical favorise une erreur. Aussitôt, vous allez avoir une rupture du consensus, mais qui en lui-même ne donne pas une certitude. On constate une crise. Il y a des évêques qui ne vont pas oser rompre publiquement leur communion, mais qui vont essayer, enfin on sentira immédiatement un malaise. Alors c'est des phénomènes, attendez, page 19, c'est des phénomènes qui ont déjà eu lieu. Donc ce sont des cas exceptionnels, mais historiquement, bon, je vous l'ai déjà mentionné, ils existent. Donc Honorius, Sergius Honorius, le pape Jean XII qui a rendu sa communion au schismatique Phocius, faussement contrit sur la recommandation de l'empereur Basile Ier, en sorte qu'en pratique, il livrait le troupeau à quelqu'un qui était réellement schismatique, pratiquement sans défense. Et ça a un effet sur le comportement des évêques parce que ils hésitaient sur leur communion. Alors, donc, quand ce qu'il y a sur un point grave une crise du magistère, d'enseignement actuel du magistère pontifical, vous allez immédiatement avoir des remous ou des contradictions. En soi, les remous ou les contradictions ne permettent pas d'avoir une conclusion et ne permettent que de reconnaître la crise. Et il y a une erreur d'un évêque local n'aura peut-être pas, n'obscurcira pas complètement, ne troublera pas complètement le magistère ordinaire universel, tandis qu'une erreur du magistère romain ne peut que troubler totalement le magistère ordinaire universel, parce que ce n'est pas localisé, du fait de la juridiction universelle. Et enfin, il peut y avoir une crise de la commochibilité du magistère ordinaire universel, parce que face à l'hérésie, le magistère ordinaire universel réagit toujours très lentement et commence par donner un enseignement obscur par sa divergence. Un très bon exemple, c'est le cas des hérésies christologiques depuis l'hérésie arienne. On s'aperçoit que des évêques orthodoxes, canonisés, défenseurs de la vérité, en luttant contre une erreur, frisaient quelquefois une hérésie. Ils n'étaient pas formellement hérétiques, c'était une maladresse. Ils parlaient quelquefois avec insuffisamment de prudence, mais on a trouvé des cas. Par exemple, attendez, Nestorius et Saint Cyril d'Alexandrie. Saint Cyril d'Alexandrie frisait le sabellianisme. Il n'était pas formellement hérétique, bien entendu, mais en insistant sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dû être pris par le pape quelque temps plus tard. Il avait des paroles qui étaient réellement imprudentes. C'est-à-dire que je vais vous faire saisir qu'un évêque, même parfaitement orthodoxe, face à une erreur, peut très bien, dans la controverse avec l'erreur, donner un enseignement qui en lui-même n'est pas une formulation très bonne, très parfaite, et qui ensuite, alors au moment des hérésies christologiques, on voit facilement des évêques qui sont hérétiques profiter de l'autorité d'un évêque qui était catholique, qui était un héros dans la crise précédente, pour justifier ou pour couvrir leurs propres erreurs, et d'autres qui étaient un peu troublés, se souvenant du prestige de l'évêque sur lequel ils s'appuyaient, flotter un petit peu. Bref, je veux vous faire saisir que face à une hérésie, le magistère ordinaire universel réagit lentement et c'est fatal. Ah, ça c'est le rappel à l'ordre. Bon. Réagit lentement et c'est fatal, et donne momentanément, sur le coup, un enseignement obscur par sa divergence. Mais vous voyez que l'Église enseignante existe toujours dans cette période de crise. Il existe toujours des pasteurs authentiquement, réellement pasteurs des successeurs des apôtres, mais ils peuvent très bien se trouver noyés, à la fois dans la quantité, dans le bruit, dans les clameurs. Donc le critère dans ce cas-là, le critère de Tertullien, l'erreur est multiple, la vérité est une, l'accord moralement unanime de l'épiscopat est donc un critère sûr, le critère de Tertullien, dans ce cas-là, il n'est plus opératif, quoique le magistère existe toujours. Et si on peut reprendre la comparaison de l'accord unanime du genre humain, si le communisme s'installait sur la planète entière, vous savez que parmi les démonstrations de l'existence de Dieu, on donne ordinairement comme preuve de l'existence de Dieu la croyance unanime à la divinité, la croyance unanime du genre humain. C'est un des rares cas où on pense pouvoir avoir la certitude sur le consentement unanime du genre humain. Eh bien, si le communisme s'installait sur la planète entière, vous pourriez avoir une apparence de consentement unanime du genre humain en faveur de l'athéisme. Ça signifierait pas que c'est la raison agissant par essence qui atteindrait, ça signifie simplement qu'il y a une pression unanime, momentanée, ça peut pas être toujours, mais une pression qui s'étend sur tous les sujets. Ainsi, en ce qui concerne le magistère ordinaire universel, si on constate qu'il y a une pression unanime qui s'exerce sur l'ensemble des évêques réunis ou dispersés, eh bien, dans ce cas-là, le magistère ordinaire universel pourra paraître, dans sa majorité, donner un enseignement erroné. Alors, ça a été particulièrement le cas pendant l'hérésie arienne, où les troupes de l'empereur Constant s'exerçaient une pression constante. Un évêque qui était anti-arien se trouvait exilé. Il y avait la peur, il y avait la pression, il y avait les autres qui avaient tous les moyens d'expression. Et on a eu, à un moment donné, vous connaissez l'expression de Saint Jérôme, « le monde se réveilla un matin arien ». Alors, c'est pas vrai, mais avec l'apparence que l'ensemble de l'Église adhérait à l'hérésie arienne, l'ensemble du magistère ordinaire universel paraissait adhérer à l'hérésie arienne. Donc c'est plus simplement obscur, mais quand on a l'évidence d'une pression constante s'exerçant sur l'ensemble de l'épiscopat, on peut avoir momentanément, de façon brève, une direction qui est fausse. Alors simplement, les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ nous garantissent que ça ne peut pas être tout le temps dans l'histoire de l'Église. Sinon, la parole qui vous écoute, m'écoute, ne voudrait rien dire. Et de fait, on constate dans les faits que dans l'histoire de l'Église, ce sont quand même des périodes courtes et rares. Et donc, il y a une application pratique. Si un fidèle a l'évidence d'une pression physique ou morale exercée sur tous les évêques et d'une attitude hésitante du siège de Pierre, dont la communion peut n'être plus significative, parce qu'il laisse sa communion à des gens quand on a quelques évidences que la communion du Saint-Siège ne garantit plus l'orthodoxie du sujet, eh bien, il doit prendre garde que le consentement moralement unanime des évêques n'est plus une règle sûre. Ça ne veut pas dire que c'est rien, mais on peut dire qu'ils ne sont plus une règle sûre. Alors, application pratique. La théorie n'a d'intérêt que dans la mesure où elle produit quelque chose. Vous pouvez connaître... Je dis ça pour faire sauter un petit peu ceux qui sont philosophes. Vous connaissez la formule de Locke, « Science is power ». La science n'a intérêt que si on fait quelque chose avec. Bon, c'est pas vrai. Pas vrai. La vérité en elle-même est la nourriture de l'intelligence. Mais enfin, c'est un petit peu vrai. C'est quand même bien intéressant de faire quelque chose avec ce qu'on a étudié. Alors, application pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ben, voir en pratique quelle est l'orthopraxis en cas de crise. Parce que quand même, c'est pas besoin de vous faire un dessin. Les conditions d'obscurité du magistère ordinaire universel sont toutes réunies à l'heure actuelle. Les conférences que vous avez eues jusqu'ici l'illustrent abondamment. Eh bien, pour les fidèles, que doivent-ils faire? Ils doivent se rapporter aux critères de Saint-Vincent de Lérins. Quod semper, quod ubique. Quand l'enseignement du magistère ordinaire universel actuel est vraiment obscur et insaisissable, la norme sûre de la tradition des apôtres, c'est ce qui s'est toujours enseigné. C'est enseigné toujours et partout. Donc, ce critère de Saint-Vincent de Lérins. Et deuxièmement, eh bien, il ne suffit pas, Côte Saint-Père et Côte d'Ubique, ça ne suffit pas pour les laïcs, parce qu'ils vont garder le catéchisme, ils vont essayer d'organiser des écoles, mais sur quels critères vont-ils savoir à quel prêtre se fier? Comment vont-ils savoir à quel confesseur faire confiance? Comment vont-ils savoir face à des problèmes moraux, des problèmes de théologie morale que la grand-mère ne connaissait pas parce que ça n'avait pas lieu à son époque et qu'il faudrait résoudre maintenant? Qui va lui dire? Qui va dire qu'est-ce qu'il faut faire ou comment résoudre telle difficulté pratique concrète pour laquelle il faut faire quelque chose? Que penser de telle nouveauté séduisante? Vous voyez qu'en l'absence, quand on ne peut pas avoir confiance dans l'évêque du lieu et même dans l'ensemble des évêques, eh bien, il faut recourir à un évêque catholique que les circonstances auront mis en avant et dont l'expérience aura montré qu'il était digne de confiance. C'est particulièrement vrai dans l'hérésie arienne. On constate qu'à l'époque de l'hérésie arienne, on reconnaissait un catholique parce qu'il était dans la communion d'Athanase. Et la norme de catholicité, c'était la communion d'Athanase. Ça ne veut pas dire qu'Athanase était infaillible, ça ne veut pas dire qu'il était le pape, ça ne veut pas dire qu'il avait la juridiction universelle, mais pratiquement, pour le fidèle, il faut bien un critère, parce qu'on est obligé d'avoir un supérieur dans l'ordre surnaturel. Il faut bien qu'on ait quelqu'un qui nous dise « ceci est la foi, ceci est bien, ceci est mal, pouvez-vous confier à telle personne, vous confesser à telle personne ». Eh bien, en cas de crise, le fidèle doit chercher un évêque phare. Et alors, on constate que dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'Église, ce prestige d'un évêque particulier qui n'est pas l'évêque de Rome et qui pourtant pratiquement est l'autorité morale dans l'Église, c'est quelque chose qu'on trouve à plusieurs reprises. Bon, vous avez le cas de saint Athanase, vous avez le cas de saint Ambroise à Milan, qui manifestement était à l'époque, il n'avait pas la juridiction universelle, mais on peut dire son prestige doctrinal était pratiquement la référence. Bossuet, au XVIIe siècle, on peut dire que toutes les grandes questions théologiques, pratiquement, mais le Saint-Siège a recouru à Bossuet, par exemple, pour toutes les discussions avec les protestants, et c'est vrai qu'il avait un prestige, ça ne veut pas dire qu'il était un saint auréole, mais on constate qu'à une époque de l'Église, un évêque, même en état paisible, peut avoir un prestige théologique ou un prestige moral tel qu'il sert de référence. En cas de crise, c'est encore plus vrai, particulièrement vrai pour le cas d'Athanase. Du côté des pasteurs, recourir à l'évêque phare en cas de crise. Du côté des pasteurs, quels sont les devoirs d'un évêque particulier face à l'évidence d'une crise du magistère ordinaire universel? Eh bien, vous avez entendu hier la question de la sollicitude de toute l'Église. Je ne sais plus lequel des conférenciers a fait allusion à ça. C'est une déduction de l'affirmation de saint Cyprien de Carthage selon laquelle l'épiscopat est un et demeure tout entier en chaque évêque. Il faut bien faire attention au sens exact de saint Cyprien, je ne veux pas être trop long, donc je ne ferai pas une exégèse précise, mais enfin, il en résulte de cette... et puis c'est quand même c'est traditionnel, ça, qu'il y a une unité de l'épiscopat. Il y a une opération surnaturelle unique, Pachyre Gregem Dei, qui est le propre du Christ, qui est supportée par des hommes consacrés multiples. Et c'est vrai qu'il y a une certaine unité de l'épiscopat. Il en résulte une certaine responsabilité de chaque évêque envers la foi de toute l'Église. Ce n'est pas une juridiction, c'est une responsabilité envers la conservation de la foi dans toute l'Église. C'est la sollicitude de l'Église universelle. Évidemment, ça a été utilisé au Concile Vatican II pour favoriser la collégialité. Mais cette sollicitude, ça n'est, elle ne s'exerce normalement que de façon exceptionnelle, en temps normal, pour toute l'Église, c'est le pape, et pour l'Église particulière, c'est l'évêque du lieu. C'est en cas de crise, de façon exceptionnelle. Et ce n'est pas une autorité de gouvernement. En cas de crise, cette sollicitude de l'Église universelle, cette responsabilité envers la foi de toute l'Église, ne donne pas à l'évêque une juridiction universelle. Il ne pourrait pas, par exemple, promulguer les nouvelles lois, modifier les lois du jeûne ou modifier les lois liturgiques. Il ne peut pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est préserver. Vous voyez, au sens de, dans la société civile, la légitime défense, par exemple, pour préserver un bien immédiatement, quoi qu'il n'ait pas le droit, lui, d'ouvrir des prisons et de juger les voleurs. Eh bien, par analogie, l'obligation d'un évêque est semblable. C'est la sollicitude de l'Église universelle. Donc, à quoi l'oblige-t-elle? Eh bien, premièrement, témoigner publiquement. Deuxièmement, rompre sa communion. Et rompre sa communion, ça signifie simplement mettre en garde les fidèles contre tel, même si on ne désigne pas de façon explicite. Rompre sa communion peut se faire de façon explicite, mais peut se faire de façon équivalente. Et en particulier, quand l'autorité de l'Église ne s'exerce que pour empêcher la sanctification des fidèles, il peut y avoir une désobéissance publique, formelle, et qui est l'équivalent de la rupture de communion. Ça ne signifie pas qu'on sort de l'Église catholique, ça signifie ponctuellement que l'usage habituel de l'autorité est utilisé contre nature. Et enfin, l'évêque doit suppléer autant que possible. Alors suppléer jusqu'où? Cette sollicitude de l'Église universelle, jusqu'où permet-elle de suppléer? Eh bien, je suivrai pour répondre à cette dernière question d'Ongrea. Je n'approuve pas tout ce que dit Dongrea, mais enfin il a fait une étude extrêmement intéressante et très documentée sur la constitution divine de l'Église. L'Église et sa divine constitution, tome 1, chapitre 4, paragraphe 3, il affirme qu'on peut aller jusqu'au sacre d'évêque. Et les conditions, alors il donne quelques exemples, il y en a d'autres d'ailleurs qu'il ne cite pas, les conditions suivantes pour la légitimité de cette action sont conjoncture grave au point de mettre en danger l'existence même de la religion. C'est une question de bon sens, si vous voulez, sollicitude, conjoncture grave au point de mettre en danger l'existence même de la religion. Deuxièmement, impuissance du pasteur légitime local, agir même dans un autre diocèse parce qu'il y a impuissance, il ne fait rien, parce qu'il ne peut pas ou parce qu'il ne veut pas. Et aucun recours à espérer du Saint-Siège. Normalement, celui qui est chargé de l'Église universelle, c'est quand même l'évêque de Rome. Aucun recours, de fait, à espérer du Saint-Siège. Quand ces trois conditions sont remplies, eh bien, cette suppléance, cette sollicitude de l'Église universelle peut aller jusqu'au sacre d'évêque en vue de la conservation de la foi. N'oubliez pas que cette suppléance ne peut pas empiéter sur la juridiction, elle est dans la ligne de la conservation de la foi, en tant que sujet du magistère ordinaire universel et à cause de l'unité de l'épiscopat. Eh bien, j'ai terminé. Je vous remercie.